on a le plaisir d'accueillir donc Éric Chauvier, que l'on commence à bien connaître parce qu'il a une production extrêmement généreuse. Une production généreuse, mais de plus en plus petit format. Voilà. Voilà. Toujours, mais ça se réduit encore. Là. Mais il en fait deux en même temps. Donc ça compense. Et c'est pour ça que, de façon un peu exceptionnelle, donc, on va présenter ce soir deux ouvrages. L'un qui s'intitule « La rocade bordelaise, une exploration anthropologique » et l'autre donc qui s'intitule « Les nouvelles métropoles du désir ». La rocade bordelaise aux éditions du Bord de l'eau, très belle maison d'édition, avec une collection que tu co-diriges, je crois, Mondes ordinaires.
Avec Bernard Trémont.
Voilà. Et puis ton éditeur habituel, donc Alia, pour les nouvelles métropoles du désir. J'en profite pour vous parler d'autre chose, parce que à l'agence d'urbanisme, avec des collègues universitaires, on publie une revue qui s'appelle « Les cahiers de la métropole bordelaise ». Et il y a une rubrique qui s'appelle « Tranche de vie ». Et Éric Chauvier nous avait fait l'amitié d'utiliser cette rubrique pour un titre que vous comprendrez rapidement, « Je cours, donc je pense ». Et donc, un petit travail impressionniste, mais aussi d'homme habitué à faire son jogging dans les vastes prairies de Saint-Médard, sur qu'est-ce qui se passe quand on court. Alors, je ne vais pas être très long parce qu'il y a ces deux livres et c'est intéressant qu'Éric Chauvier nous en parle directement. Simplement, ce qui est le fil rouge du travail d'Éric Chauvier, c'est que certes, il est anthropologue, mais qui s'intéresse beaucoup à la parole et à l'écriture. Donc, ce qui est très agréable dans ses livres, c'est que c'est toujours c'est de la littérature. C'est de la littérature et en même temps, c'est de l'anthropologie. Et par ailleurs, son travail, c'est sur ce qu'il appelle l'ordinaire. L'ordinaire, c'est un peu le quotidien quand ça cafouille. Le quotidien quand ça cafouille. Et Éric Chauvier souvent met en avant le fait que ce cafouillage, ces vacillements, ces bousculades, ces bagarres sont souvent liés à des espèces de ruptures dans la communication. Donc il y a un double intérêt d'Éric Chauvier pour le langage. Il y a la communication et les dégâts de la communication contemporaine, et puis le travail d'écriture qui est une façon de rendre compte de ces petits faits de la réalité qui sont proposés, mis en forme et plus ou moins analysés, interprétés. En particulier dans ces deux ouvrages, le lecteur a aussi, ce qui est très bien, à travailler finalement hein, pour s'approprier la matière et se faire aussi ses propres interprétations. Alors, un mot sur la rocade bordelaise, sujet bizarre qui ne serait peut-être pas venu au devant de la scène. Il se trouve que l'agence d'urbanisme que je dirige s'intéresse souvent à des sujets qui n'intéressent pas les urbanistes habituels. On s'intéresse à la rocade, on s'intéresse aux espaces publics ordinaires. Nous aussi, finalement, on s'intéresse beaucoup à l'ordinaire, alors que les urbanistes, sous le grand patronage des architectes, sont souvent plus intéressés par l'extraordinaire. Mais la vie des gens, c'est l'ordinaire, et on a donc un devoir de s'y intéresser. Et parce qu'on s'intéresse à la rocade, on vous propose une exposition à l'agence d'urbanisme au hangar G2. Et dans le cadre de cette exposition, on a fait des commandes artistiques à des artistes plasticiens. Et puis, on a aussi suggéré à Éric Chauvier de s'intéresser aux usages de la rocade. Donc ça, c'est un premier point. Et Éric vous parlera de ces usagers de la rocade, de cette rocade à la fois très présente, hein, tous les matins autour d'un café, les gens en parlent, et en même temps très absente parce que phagocytée par ces espèces de fonctionnement qui occupe finalement tout le propos de la rocade. Et nous, ce qu'on cherchait à faire, y compris à travers l'exposition, c'est d'aller un peu plus loin et de montrer qu'il y a une diversité de regards possibles sur cette rocade et qu'on peut aussi imaginer son avenir heureux. L'autre ouvrage, Les nouvelles métropoles du désir, c'est moins simple. C'est moins simple parce que c'est extrêmement fouillé dans la diversité des regards. Si je voulais aller très vite pour résumer l'affaire, j'ai cru comprendre qu'en gros, ça partait du fait qu'Éric Chauvier n'avait pas réussi à commander une bière dans un bar. Voilà, c'est ça en fait le fond de l'affaire. Et grosso modo, c'est des faits relativement objectivés, hein, une bagarre dans une rue qui confronte on peut imaginer que c'est des beurettes du périurbain ou de la banlieue et un bon bobo hipster, comme on dit, de la ville-centre. Et puis, tout ça ensuite se transfère dans un bar improbable où le narrateur, l'observateur, l'anthropologue est perdu. Perdu dans un univers qu'il ne comprend pas. Et donc, non seulement n'arrive pas à commander sa bière, mais ne comprend pas tout ce qui se passe, tout en formalisant petit à petit un certain nombre d'archétypes qui vont, in fine, permettre de formaliser une opposition assez frontale entre les habitants de la métropole, ceux qui sont, entre guillemets, du bon côté, et les autres qui sont dans le désir de cette métropole et de ces feux les plus clinquants. Voilà, j'en ai déjà trop dit, et puis je vais laisser Éric peut-être d'abord nous expliquer ou approfondir un peu ce projet qui me semble assez global et pris dans la continuité, et puis ensuite parler des deux livres.
Oui, les deux livres sont, en t'écoutant, je pensais que finalement c'est comment on construit un objet. Alors l'objet rocade, comment est-ce qu'il est déjà préconstruit par un ensemble d'analyses d'urbanisme, par un ensemble d'expertise ou de pseudo-expertise des médias, comment est-ce qu'on construit cet objet en termes de représentation pour les personnes. Et puis l'autre livre, le petit livre, c'est comment est-ce qu'on construit la ville ou comment est-ce que les... Et en fait, dans les deux cas, en tant qu'anthropologue, je me positionne comme un élément plus ou moins perturbant. Jean-Marc le disait, évidemment, c'est très perturbant dans ce bar, puisque les nouvelles métropoles du désir part d'un fait divers, en tout cas une rixe de rue très violente, en fait. Hein, très violente, puisque j'avais assisté à cette scène. Je ne suis pas spécialement habitué à la violence. Et donc ces trois jeunes filles qui tabassent ce jeune homme. Et effectivement, c'est cette idée de perturber d'une anthropologie qui serait une perpétuelle perturbation et qui l'observation viendrait perturber la réalité quotidienne ou ce qui nous entoure pour mieux le saisir d'une certaine façon. Et si je reviens à la rocade, je vais arrêter de passer d'un livre à l'autre parce que je vais me perdre. Mais si je reviens à la rocade, c'est très difficile de s'atteler, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre quand même, de s'atteler à déconstruire un peu cet objet qui est omniprésent, tu l'as dit, qui est à la fois très présent et très absent parce qu'il n'existe que d'une certaine façon, l'enfer de la rocade, etc. Et je trouve assez fascinant de travailler sur le banal, on pourrait dire aussi le banal d'une certaine façon, c'est cet objet banal. Qui ne supporte finalement aucun autre registre d'expertise que Sud-Ouest et l'analyse des flux, d'une certaine façon. Il y en a peut-être d'autres que je ne pense pas spontanément, mais c'est un peu ça l'idée. Et dans les deux cas, c'est comment est-ce qu'on construit un objet et comment est-ce que l'anthropologue peut déconstruire l'objet. Et donc, dans le livre sur la rocade, c'est en partant des usages, des petites choses, des petits éléments, une fois admis le côté infernal de la rocade et extrêmement et source de souffrance, en réalité, pour les personnes, Il y a énormément de contre-usages, de détournements, de ce que Michel de Certeau appelait des techniques, des ruses, pour essayer d'être en prise avec cette sorte de territoire, mais qui est extraterritorialisé aussi, qui est là sans être là, qui est hyper présent et qui en même temps est subi. Donc c'est un objet très difficile à faire bouger. Et on en parlait aussi par rapport aux réceptions actuelles sur la rocade. Mais c'est le début sans doute d'une véritable réflexion sur le banal. C'est mon ami Bruce Bégout qui travaille beaucoup là-dessus, sur les motels, sur le banal. Sur le banal américain, sur Las Vegas, d'une certaine façon. Et c'est très intéressant, je trouve, cette approche de déconstruire le banal. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en t'écoutant, je pensais à ça. Comment est-ce qu'on construit des objets? Comment est-ce que notre opinion, l'opinion publique, ce qu'on appelle un peu couramment l'opinion publique, est complètement axée sur la construction d'objets, la ville, alors la ville, ça reprend la rocade, et puis comment, finalement, on a peu de marge de manœuvre en tant que citoyen ordinaire pour saisir ces objets-là. Donc l'anthropologie... que je défends, que certains ici en ont quelques-uns à défendre, est plutôt là pour perturber ces habitudes de représentation. Donc il y a toute une tradition américaine, notamment de Harold Garfinkel, les ethnométhodologues, Goffman. Pourquoi les Américains, c'est pas général, mais s'intéressent plus à ce qui dysfonctionne pour que le sens émerge. Et pourquoi nous, on est plutôt dans une école durkheimienne, on cherche les invariants, on cherche les groupes. Alors que c'est très intéressant, ce que dit Garfinkel, un ethnométhodologue, de travailler sur ce qui est bizarre, sur ce qui génère du malaise. Parce que là, ça va produire des réactions autour de l'anomalie qui est observée et des réactions d'adaptation. Et la norme va s'exprimer par ce biais-là. Et c'est plus difficile, je trouve, de travailler sur des groupes ou sur des invariants, parce que c'est toujours un peu une part fictionnelle. Là, on est obligé de lisser un peu son propos pour trouver des invariants. Et là, dans les nouvelles métropoles du désir, c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire que, comme l'a dit Bernard dans une des critiques qu'il a faites récemment, je deviens moi-même l'anomalie, ce que je n'avais pas forcément perçu, je deviens moi-même l'anomalie dans ce bar. Habituellement, je travaille sur des anomalies un peu extérieures, et le livre commence comme ça d'ailleurs, c'est-à-dire ces trois jeunes filles qui tabassent ce jeune homme, je veux aider ce jeune homme, et il a honte, je sens qu'il a un sentiment de honte de ce qui vient d'arriver, et... pour moi, c'est une anomalie assez manifeste. C'est-à-dire que c'est violent et en même temps, il veut que la scène, de façon magique, disparaisse. C'est quelque chose qui est très urbain, ça, aujourd'hui. Il y a une forme d'auto... Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je ne parle pas des événements tragiques survenus depuis quelques mois, mais il y a une forme d'auto-persuasion de méthode couée, que là, je retrouve en micro, en fait. C'est-à-dire, à une toute petite échelle, il en vient à essayer d'oublier, d'occulter de façon magique ce qui vient de se passer. Et ça, c'est l'anomalie, ça part de là. Et après, je me retrouve moi-même étant une anomalie, puisque c'est un peu le ressort humoristique, je ne peux pas commander de bière, mais aussi parce que je me trouve moi-même en situation de satellisation, je me sens extérieur à cette... j'ai 44 ans, moi, je ne suis pas très vieux, mais je me sens extérieur à... Enfin, un peu, je commence à l'être, mais... c'est très relatif. En tout cas, je comprends tout d'un coup que c'est très relatif et que tous les jeunes gens qui sont devant moi, qui sont déguisés en Lana Del Rey ou en Pete Doherty, c'est-à-dire une forme de bon goût très urbain, en fait, me mettent à distance. Alors même que, je me sens pas spécialement décalé par mes goûts musicaux, par ma vie, etc. Et là, d'un coup, c'est quelque chose d'assez violent. Et c'est cet écart-là qui est un peu le ressort aussi de l'analyse et qui va déclencher un processus de mémoire, un peu de souvenir. En fait, la situation, c'est toujours d'imaginer dans une situation hyper urbaine ce qui se passe au même moment dans la périphérie pavillonnaire où j'habite, puis dans la périphérie un peu plus loin, qui est celle de ma ville d'enfance, qu'on appelle aujourd'hui le périmétropolitain, où il y a plus d'économie, où il y a beaucoup de déprimes. Je schématise, mais il y a quand même pas mal de déprimes. Et donc, c'est cette perception de cette anomalie, de cet état de dysfonctionnement, de cet état de mise à l'écart qui m'amène, par un travail un peu de mémoire, à travailler sur ces situations-là, jusqu'à revenir ensuite dans le troisième niveau de périphérie, qui est le grand ensemble, d'où viennent les trois jeunes filles. Et là, c'est plus un travail sur l'imaginaire, mais bon, ce qui est intéressant en sciences humaines aussi, c'est de cibler les moments où nos capacités d'analyse s'épuisent. Et donc là, ça a existé. Il y a des livres de France, de Pinagos et de Corbin, Alain Corbin, mais certains historiens ont travaillé avec l'imaginaire. Donc c'est intéressant aussi de donner à penser une analyse qui circonscrit un peu sa sphère de flottement où elle ne peut pas aller. Bon, là, j'ai un peu parlé un peu dans tous les sens, mais c'est pour ramasser un peu le propos, c'est quand même toujours comment sont construits les objets et comment on a beaucoup d'intérêt à les déconstruire. L'époque est particulièrement crispée quand même en plus, donc les objets se créent de façon un peu plus évidente, un peu plus mécanique aussi. Et j'estime à la limite que c'est presque une marge de manœuvre politique d'être capable de parler précisément ou un peu précisément des objets qui nous entourent sans une forme de prêt-à-penser qui fleurit. Donc l'anthropologie, ça serait ça d'une certaine façon.
Si on parle un peu boutique méthodologique, dans ce bar, dont on vous précisera tout à l'heure le nom, tu as un petit carnet, ton téléphone portable qui enregistre, comment ça se passe ?
J'enregistre, je prends des photos. Ouais. Alors, pour remettre en contexte, c'est un bar qui est donc peuplé de personnes branchées, mais avec des écrans géants qui sont eux-mêmes assez branchés. Il y a des références à New York un peu de Brooklyn, artiste. Donc c'est une sorte de William Burroughs, de codification comme ça, d'une culture un peu élitiste. Mais tout ça sous l'égide de Rihanna, la chanteuse Rihanna. Alors, j'ai anonymé, évidemment c'est pas Rihanna, en fait. Beyoncé, qui est-ce ? C'est ça la part de mystère. Ça peut être une autre chanteuse, mais l'enjeu était qu'on ne reconnaisse pas le lieu. Donc... Ce qui me semblait donc dans ce milieu-là, et puis surtout une musique extrêmement envahissante, qui n'est pas forcément désagréable, de la house music, mais à un niveau très élevé. C'est-à-dire une musique assez douce, mais à un niveau très élevé. Et moi, j'ai pas mal de collègues à mon école d'architecture de Nantes, où je travaille, qui travaillent sur les ambiances. Et la ville, aujourd'hui, est beaucoup basée sur les ambiances sonores, sur les ambiances olfactives, visuelles, etc. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et dans ce bar-là, je me sens décalé parce que je n'ai pas ces codes-là. La question
Non, au départ, c'était sur le côté méthode d'enquête. Voilà.
C'est là que je voulais en venir. Ouais. C'est-à-dire que tout est possible, de mon point de vue. Donc, je commence à prendre des photos. Je fais des grands gestes complètement exagérés pour commander ma bière. Tout devient possible, puisque dans cette masse sonore, il n'y a plus de... Tout est possible, d'une certaine façon, jusqu'à une certaine limite, qui serait que je me dévêtisse complètement, ou je ne sais pas. Mais... une marge de manœuvre énorme due à l'ambiance finalement extrêmement hostile parce que inhumaine, parce que la communication ne fonctionne pas, parce que les mots que prononcent mes voisins ne sont pas audibles, parce que c'est une sorte d'antibar, l'antibar à la Simenon. Je parle de Simenon, j'aime beaucoup Simenon, et dans les bars de Simenon, il y a toujours les odeurs de cuisine, l'odeur de vin, le cliquetis des verres, etc., les paroles... Et je ne suis pas nostalgique des bars de Simenon, mais se retrouver tout d'un coup dans ce type d'endroit, c'est un saut énorme, et en tout cas qui va permettre toutes les méthodologies possibles, y compris une prise de notes, y compris des photos. Au début, le texte avait été composé sur le mode des maquettes, c'est-à-dire que j'avais fait plusieurs photos qui... Alors, je ne connaissais pas le nom des marques portées, des vêtements notamment portés par... les personnes de ce bar. Donc j'avais fait vraiment un travail d'anthropologue hyper classique, c'est-à-dire prendre des photos et aller me renseigner sur Internet après, ou mon entourage, pour savoir quelle était cette marque, à quoi elle correspondait, un peu comme une sorte de Candide qui découvrirait, sauf que c'est le bar du coin de la rue, hein, c'est le bar où beaucoup de gens vont, mais avoir d'exotiser, entre guillemets, cet endroit était d'une part un ressort comique, je trouve, et puis en même temps... on disait long sur ce qu'on appelait la marchandise fétiche et son pouvoir incroyable dans ce type d'endroit, en fait. Donc voilà, pour la méthodologie, ça s'est fait de façon extrêmement débridée, d'une certaine façon, et en même temps avec un hermétisme total. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je ne peux plus prendre de notes. Ben je ne comprends rien à ce qui se passe, en fait. Donc j'en reviens à une description visuelle. Et puis j'ai soif.
Dur métier. Alors, il y a un de tes lecteurs qui a intitulé sa note de lecture « Guy Debord chez Rihanna ». Finalement, bon, sans faire de grands discours sociologiques, moi, j'aurais plutôt dit Bourdieu chez Rihanna, parce que on est quand même assez vite sur à la fois sur la définition de groupe, hein, extrêmement identifié, alors peut-être plus fragmenté qu'au temps de la bonne lutte des classes entre deux mondes, mais quand même, voilà, il y a cette identification de groupe. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler ces violences symboliques, quoi. Il y a la violence physique, mais il y a aussi beaucoup de violences symboliques dans l'imposition de codes, hein. Et puis, il y a ce qui est peut-être ta patte personnelle au sens de l'expérience, ce décryptage, je dirais, quand même, de ces groupes par des appartenances territoriales. Et ça, alors je sais que, et vous savez que le périurbain sera sauvé par Eric, et que voilà, les urbanistes commencent à peine à considérer qu'il y a un périurbain qui existe et qui mérite d'être analysé, appréhendé, et qui mérite d'être objet de projets, hein, comme la ville-centre et comme le centre-ville. Voilà, moi ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur ce côté, malgré tout, retour d'un certain macro-déterminisme, mm-hmm. et puis sur le rôle de ces appartenances territoriales dans cette affaire.
Appartenance territoriale, je pense. Après, c'est la question du groupe qui résiste complètement à toute analyse, en fait. Puisque c'est, je vais dire, hipster, et c'est très rapide, c'est comme dire bobo. C'est-à-dire, c'est quand on est extérieur, justement, qu'on est tenté de dire hipster ou bobo. Sur le coup, la grande difficulté, c'est de recueillir leur parole, de les entendre parler. Donc, je ne sais pas si je peux raisonnablement les lier par ce qu'ils me disent, par leur mode de représentation ou je ne sais quoi. Je vais plutôt les lier parce que le fait qu'ils sont simplement là, dans cette situation-là, à ce moment-là. Mais je pense que le aussi ce qui ressort du livre, c'est l'impossibilité, à la difficulté extrême, à les lier dans un groupe qui serait un groupe de je ne sais pas, de jeunes gens branchés, irresponsables ou inconséquents. C'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. C'est ce que je suis tenté d'en penser, mais sans qu'eux, eux sont peut-être des gens très bien, et c'est ce que je dis à un moment donné dans le livre, c'est-à-dire que à leur attitude, je sens qu'ils ont une vie extrêmement complexe, sophistiquée. Leurs attitudes témoignent d'éléments sophistiqués, mais je n'y ai pas accès. Et c'est peut-être plus ça. Après, l'appartenance territoriale, elle va revenir, mais à nouveau plus par un biais. Je travaille beaucoup sur ces questions maintenant du périmétropolitain, c'est-à-dire de ces communes qui, pour des raisons extrêmement diverses, vont voir leur économie chuter et vont être un peu dans les situations de déclin. Mais ce sont c'est plutôt des témoignages, et comment ces témoignages pourraient mettre en question ces territoires-là. C'est plutôt cette dimension qui m'intéresse, plus que de décréter, au fond, comme la ville de mon enfance, elle est définitivement... elle est définitivement éteinte. Par contre, toutes les personnes c'était mon ami d'enfance qui tient des propos racistes lors d'un apéritif et avec qui j'essaie de discuter sans en vain, des jeunes gens dans le bois d'à côté pendant que je fais mon footing qui me visent avec une carabine. Et ce sont plutôt des tendances, je dirais. C'est essayer de saisir ces territoires par ce qu'ils ont de violent, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais surtout par leur désir de métropole. C'est ça qui est flagrant, en fait. Ces jeunes filles qui viennent tabasser ce hipster, elles ont évidemment un désir de métropole. Parce que je les ai connues un peu en Seine-Saint-Denis, elles et ils et les adolescents des dispositifs relais où j'ai travaillé, faisaient ce trajet jusqu'au hall tous les jours. Et je connais trop leur parcours parce qu'ils m'en ont énormément parlé, c'est-à-dire le parcours, quitter le quartier sans stimuli, où il n'y a plus de commerce, je ne sais pas, Pablo Picasso à Bobigny, pour n'importe lequel, pour ensuite prendre le tram, pour ensuite mettre le métro, et petit à petit arriver dans la ville qui a ses marchandises fétiches, qui a ses possibles, qui a ses et y a un jeu de projection qui est totalement leur défaveur, qu'elles vont surmonter par... par, c'est ce que me disaient les jeunes là-bas, simplement par le fait de consommer des substances psychotropes, et puis de se battre, et puis de... Mais en tout cas, le rapport à la ville, et c'est ce désir de métropole qui est très pervers, puisqu'il se retourne évidemment, qui est très délétère pour, elle, pour ces personnes-là. Et de la même façon, d'une autre façon, mon ami d'enfance a aussi un désir de métropole. Simplement, il sent que la réussite économique qu'incarne la métropole, il est satellisé. Lui, il s'est fait virer de l'usine, il a son pavillon à rembourser. C'est une situation lourde. Et donc, il ne peut pas... il n'est pas raccord avec le modèle de réussite de la métropole. Et en fait, ce livre, c'est plutôt une tentative pour comprendre comment, par le biais de ces hipsters... je mets des guillemets, notre façon d'être dans la ville, notre façon ordinaire, plutôt quotidienne d'être dans la ville, exclut presque de façon mécanique, sans même qu'on s'en rende compte. Puisqu'on va croiser des personnes, s'il suffit de faire 50 mètres dans Bordeaux pour croiser trois personnes visiblement pauvres. Et c'est ce que l'on projette presque, il n'y a pas à être responsable ou coupable de ça, mais par notre apparence, les rôles qu'on tient, ce que Simmel, un sociologue, appelait la moue blasée. Le modèle de la vie urbaine, c'est la moue blasée. C'est-à-dire, pour Simmel, c'était une capacité qu'on avait à... Il appelle ça le choc des métropoles. Il observe Berlin qui apparaît au tournant du 19e et 20e, et il observe que le paysan venu de la campagne, qui arrive sur la célèbre place berlinoise, va être complètement stupéfait par les foules, par la foule de stimuli, par les bruits, par les interactions qui se démultiplient, qui sont un contraste notable avec sa vie quotidienne. Et Simmel montre bien que c'est notre capacité à domestiquer par les sens ces interactions qui fait que nous appartenons à la ville. Si je veux prendre le tramway, il ne faut pas que je me mette devant le tramway lorsqu'il va arriver. Il faut que je comprenne que le tramway va s'arrêter, par exemple. Ça peut sembler... les ethnométhodologues ont beaucoup travaillé sur ces questions-là de cette vie ordinaire qu'on ne déconstruit plus parce qu'on est trop... Dans ces routines-là. Et donc, la moue blasée, c'est ça. C'est cette capacité que nous avons, sans même nous en rendre compte, à domestiquer la ville et ses flux et ses stimuli et ses interactions. Et il n'y a pas de morale dans ce livre. Il y a une tentative d'analyse pour montrer que, dans l'époque où nous sommes, cette moue blasée, cette adhésion culturelle à la ville, à l'économie de la ville... produit du déclassement, sans même qu'on s'en rende compte, en fait, sans même qu'on en soit ni coupable, ni responsable de quoi que ce soit. Le problème n'est pas là. Le problème est comment, par notre simple apparence, on produit ce type de projection négative. Et évidemment, je reboucle la boucle, et puis c'est pas pour rien qu'elle s'en prenne à ce jeune homme qui n'incarne pas la richesse, mais qui incarne la moue blasée, précisément. Le hipster est, par définition, le hipster. Et là, à nouveau, je suis très caricatural et je m'en excuse. Celui qui a cette moue blasée ou qui peut domestiquer les flux de la ville avec une certaine aisance parce qu'il montre par son apparence qu'il connaît les codes, qu'il est allé chez le coiffeur qui lui permet d'être bien coiffé, qu'il connaît les vêtements de marque qui vont bien. Donc il connaît les usages de la ville et il est raccord avec cette économie-là. Et c'est, je pense, ce qu'elles ont voulu cibler et ce qu'il a très sporadiquement incarné dans leur esprit embrumé par les vapeurs de cannabis, c'est probablement cette image-là de la ville. Et évidemment, il y a des ellipses derrière, hein, parce que c'est l'époque et c'est la question du passage à l'acte, en fait. C'est la question du passage à l'acte. Comment est-ce qu'on passe à l'acte? Et comment est-ce que sur un socle, et comment la ville, là-dedans, joue, qu'on le veuille ou non, une sorte de rôle par ces postures qu'elle nous fait tenir ou, donc voilà le sens de ce que j'avais voulu dire dans ce livre.
En 30 secondes, moi, je vais esquisser une autre analyse. Parce que, effectivement, la référence à Simmel est très intéressante. Simmel, c'est Berlin au 19e siècle. Et c'est comment on gère l'altérité, comment on gère le rapport à l'autre, dans une indifférence... voilà, bien organisé. Et moi, j'ai une hypothèse un peu lourde, hein, mais qu'il faudrait mieux développer. C'est que finalement, cette ambiance métropolitaine, on la trouve dans les très grandes villes. Voilà. Et en France, en gros, on la trouve, On la trouve à Paris, on les trouve dans les quelques métropoles vraiment cosmopolites comme Marseille et peut-être Lille et Lyon. Et finalement, à Bordeaux, on est dans une ville qui a à faire cet apprentissage. L'histoire du tramway est amusante parce que à Paris, tout le monde se débrouille. C'est même extraordinaire qu'il y ait aussi peu d'incidents alors que des millions de personnes sont à 8 par mètre carré à se mélanger matin et soir. Et dans le tramway bordelais, on a le sentiment que l'incident peut arriver très vite, voilà. Y compris dans la manière de rentrer dans le tramway. Voilà. Et donc moi, j'aurais peut-être une analyse qui est presque antagoniste à la tienne, c'est-à-dire que c'est pas la métropole qui crée ces tensions et cette violence, mais c'est peut-être le fait qu'on est dans une étape pré-métropolitaine, si je puis dire, et que la métropole, au sens de Simmel, c'est quand même beaucoup la coexistence de la diversité.
Je pense qu'il reste effectivement beaucoup de ratés, surtout à Bordeaux, qui est peut-être pas... oui, effectivement, c'était dans une définition de la métropole, en tout cas en termes de comportement. Mais il y a quand même, je pense, un phénomène de mimétisme métropolitain qui nous engage tous. Il suffit d'aller place Fernand Lafargue, d'aller rue du Passe-Saint-Georges. On est dans l'hyperville, on est dans une espèce de programmatique, de façon de consommer branchée, vintage, écolo, etc. Et je pense qu'il y a une mais qu'il y a des ratés. Mais c'est intéressant à travailler. Je ne pense pas que, peut-être sauf à Dubaï, je ne sais pas, mais dans certaines villes, mais encore, j'en suis pas du tout certain. Je pense que les classes et les rapports de classe restent omniprésents, en fait. Et que il n'y a pas un métropolitain, une façon d'être métropolitaine qui serait assimilable à une classe sociale, par exemple. Il y a une foule de façons de vivre la ville encore, je pense. Et au milieu, il y a le hipster. Et c'est ponctuellement celui qui est peut-être celui qui est dans le plus dans ce mimétisme métropolitain. Mais évidemment, loin de moi l'idée que... Et ça pourrait marcher à Limoges, ou à, peut-être même à Lyon, ou même dans des villes que tu citais, ou à Lille, que je connais un peu, où ces rapports de classe continuent à exister. Où les pauvres côtoient les riches, qui côtoient les branchés, et ceux qui ne le sont pas.
Alors, il y a quelque chose qui est omniprésent dans le livre, c'est effectivement les référentiels de chaque groupe. Alors les marquages, quoi, ou les marqueurs, hein, la mode, les vêtements, la musique, qui est à la fois une variable sociale et qui en même temps envahit l'ensemble de l'espace. Voilà. Et ce qui peut effectivement te transformer en fabricant d'ambiance, hein, comme le font des architectes ou des couturiers. Ça aussi, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a à la fois l'idée que ce qu'on recherche quand on veut être un vrai touriste, c'est pas jouer au touriste, être dans le local, dans l'ambiance locale, et en même temps, le tourisme qui est très présent aussi dans nos questions d'espace contemporain, fabrique de l'ambiance. Voilà. Comment tu... Alors, pour le coup, en tant qu'anthropologue, tu arrives à regarder, à jouer avec ces questions de marque, de référentiels musicaux.
En tant qu'anthropologue, et c'est un sujet de débat avec mes collègues de Nantes, qui travaillent spécifiquement sur les ambiances, l'ambiance est très difficile à travailler en anthropologie, puisque nous travaillons toujours sur des indices, l'ambiance est une sorte de... Si on parle d'ambiance, je vais plutôt dire, mais pourquoi est-ce que tu as mis cet écran ici, et comment est-ce que quels sont les usages du lieu, de la situation qui font que l'ambiance existe. Là, c'est une question un peu méthodologique, mais importante. Après, tout est affaire d'usage, c'est-à-dire sur la musique, c'est assez révélateur. Comment les classes sociales se fondent en fonction de la musique. Dans ce bar, c'est très métropolitain, je trouve. C'est le remix, c'est-à-dire une relecture de musique populaire. Et en l'occurrence, dans ce bar, c'est ce qui passe en permanence. Donc des chanteuses très populaires de R&B comme Rihanna ou Beyoncé ou d'autres. Et ce qui est amusant, c'est que dans la périphérie, je les écoute au premier degré, ces musiques, avec ma fille notamment. Ma fille aînée. Ça ne viendrait pas à l'idée de remixer un morceau de Beyoncé. Et c'est, alors évidemment, elle est plus jeune, et peut-être qu'elle ira dans ses bars écouter Beyoncé, grâce à Madeleine de Proust. Je sais pas. Mais en tout cas, la musique, c'est une affaire d'usage, là, très clairement. Et Booba, je prends le cas de Booba, que j'ai beaucoup entendu en Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, écouter aussi, en fait, c'est assez intéressant, de voir comment les jeunes de ce dispositif relais où je travaillais, et les jeunes en général de Seine-Saint-Denis, en général, je veux dire, des milieux populaires, écoutent Booba au premier degré, et comment des étudiants, par exemple, aujourd'hui, moi je parle beaucoup des étudiants que j'ai à l'école à Nantes, à l'école d'archi, écoute Booba au second degré. Et il y a vraiment une écoute de Booba au second degré. On revient un peu sur ces affaires d'usage et de la musique, et comment nos usages sont des marqueurs de classe, en fait. Ça me semble... Et le livre traite assez spécifiquement de ça, de ce rapport que nous avons à ces codes culturels. Est-ce qu'on est capable, la moue blasée, c'est aussi être capable de les domestiquer, ces codes, et d'en faire un remix, d'être un peu au-delà de celui qui va l'écouter au tout premier degré. Moi, je suis très sensible à ça, à ces usages qui peuvent s'exprimer de cette façon-là.
J'espère que ta fille est intéressée aux droits d'auteur, parce que manifestement, elle a beaucoup contribué à l'affaire.
Ma femme aussi, mes deux filles, mes amis. Moi, je ne peux pas payer tout le monde. Parce que
Peut-être pour dire un mot sur la rocade, de même que tu opposes beaucoup... différents territoires dans le bouquin sur les métropoles. Sur la rocade, il y a un peu aussi voilà, une partition, une double partition, ceux qui habitent en intra-rocade ou en extra-rocade, et puis implicitement ceux qui sont obligés d'utiliser la rocade aux heures de pointe et tous les autres. Est-ce que tu peux... Voilà, prendre quelques minutes pour nous parler comme ça aussi.
C'est un témoignage, ça, d'une des personnes que je rencontre. Ouais. Donc, il faut vraiment le remettre dans ce contexte-là. Mm-hmm. Cette personne-là imagine qu'il est totalement absurde que toutes les personnes qui sont dans la partie intra-rocade prennent la rocade, puisque ça va... Pour lui, ils sont responsables des embouteillages. Et dans la mesure où il pourrait, on en parlait avant la rencontre, très bien renouer, si les pouvoirs publics se décident à le faire, ce fameux... circuit des mairies ou la rocade, le train des mairies, puisque c'était les cheminots, je crois, qui avaient proposé ça aussi. Donc pour lui, il y a d'autres choses à tenter, et c'est un sentiment que j'ai retrouvé chez d'autres usagers de la rocade. Et encore une fois, les gens, ils aiment bien territorialiser, mais la réalité n'est pas forcément comme ça. Moi, dans mes enquêtes, je constate un peu l'inverse, c'est que tout ça est très fragmenté, qu'il y a des pôles d'urbanité, qu'il y a ici... que l'urbain ne peut pas être... Il n'y a pas d'un côté, c'est le livre de Christophe Guilluy, que vous connaissez sans doute, qui était vraiment une polémique. Est-ce qu'il y a d'un côté les villes avec les personnes qui ont de l'argent, qui ont des savoirs, et de l'autre, et l'économie, donc, et de l'autre, ce qu'on appelait autrefois la province, mais que lui appelle les périphéries, le périmétropolitain, les villages un peu lessivés, les bourgs qui meurent. Où il y a ce qu'on appelle le white trash, c'est-à-dire des gens qui, grosso modo, vont voter Front National, vont développer une espèce de colère sourde, de ressentiment. Et moi, je suis assez contre cette idée de territorialiser comme ça les comportements. Les enquêtes que je fais sont toujours beaucoup plus nuancées. Il suffit d'aller au milieu des Pyrénées, dans la randonnée dans les Pyrénées, à 1500 mètres d'altitude, vous allez trouver un parking avec 500 places, à 12 euros l'après-midi pour les randonneurs, parce que c'est un chemin de grande randonnée. Ça veut dire que ça, c'est de l'urbanité, de toute façon. Ça veut dire que l'urbanité, on l'a importée au milieu des Pyrénées. On a créé une poche comme ça, une enclave de ville, finalement, au cœur même de... Donc tout ça est beaucoup plus nuancé. Donc, effectivement, les usagers de la rocade ont tendance, eux, à territorialiser. Mais c'est leur témoignage. Et il y a vraiment un contraste fort avec les enquêtes qu'on peut faire. Et on voit comment Bordeaux s'est étalé, comment... Saint-Médard-en-Jalles, qui était vraiment du périurbain plus il y a quelques années, qu'il est toujours parce que dans la deuxième couronne de la ville, mais qui en même temps a retrouvé un centre qui pourrait être de l'urbain, avec des bars, avec des restaurants, avec des... C'est plutôt ça qui fait la ville, de cette façon. Donc, il faut être très nuancé dans ces démarches-là. Par contre, et puis, après, il y a beaucoup de théories là-dessus, sur le, l'urbain n'est pas seulement du bâti, c'est aussi une façon d'être, faire de l'e-commerce en Ardèche. C'est toujours un peu le, ce qui a avancé pour expliquer l'urbain au fin fond de la campagne. Mais je pense que c'est assez pertinent.
Henri Lefebvre l'avait dit il y a 30 ou 40 ans, la généralisation de l'urbain. Quoi.
Oui.
Et la disparition relative de l'opposition ville-campagne, en tout cas dans les pratiques. Quoi. Mm-hmm. Merci beaucoup à Éric Chauvier.